Les rencontres de la Galerne.
Bonjour Martin Vinclair.
Bonjour.
Merci de venir à la Galerne nous présenter l'école des soignantes, votre roman qui paraît aux éditions POL. Ce récit riche d'histoire, d'expérience, de péripéties et de langage, vous l'installez dans un milieu familier à celles et ceux qui vous lisent. C'est à Tourment qu'on suit les pas de Anna dans cette école des soignantes. À cette époque où l'accès à la santé reste terriblement inégalitaire en France. Pouvez-vous nous dire, nous raconter un petit peu qui est Anna au tout début de cette histoire ?
Alors Anna est un homme, comme son prénom ne l'indique pas. C'est un homme d'une trentaine d'années qui a travaillé comme programmeur dans une entreprise et qui un jour... À la suite d'une histoire familiale assez paisible mais assez particulière, décide de quitter ce travail pour devenir soignante. Parce que à l'école des soignantes, il n'y a que des soignantes, même si ces soignantes sont des hommes. Et il a fallu un certain nombre d'événements dans sa vie, mais pas forcément des événements d'ailleurs dramatiques, mais enfin des événements assez marquants. Et puis aussi une rencontre avec une collègue de travail qui lui explique comment elle a été accueillie dans ce lieu qui est le centre hospitalier holistique de Tourment, le CHT. Et voilà. Et alors Anna se dit je vais devenir quelqu'un qui soigne, et il s'engage dans l'école.
Pourquoi ou comment avez-vous fait de ce récit un roman d'anticipation, de science-fiction ?
Alors, l'idée, c'était de faire un roman qui aille un peu plus loin que les autres romans que j'avais écrits et qui parlait aussi de la formation aux soins, hein, les trois médecins, le cœur des femmes, dans une certaine mesure aussi, en souvenir d'André, en parlait. Et je me suis dit, si je veux aller plus loin, il faut que je propose ou que je décrive ce que j'imagine être un lieu dans lequel on soigne de manière égalitaire et bienveillante, et dans lequel tout le monde est formé pour ça. C'est-à-dire sans rapport de force, sans hiérarchie, avec une bienveillance et une collégialité, et donc il suffisait pas d'écrire des livres qui décrivaient la situation aujourd'hui, il fallait aussi dire puisque c'est pas tout à fait ce qu'on veut aujourd'hui, comment est-ce que ça pourrait être et qu'est-ce que ça pourrait être. Alors voilà, donc je l'ai situé dans un futur pas trop éloigné, parce que je voulais que les personnages qui étaient des personnages du cœur des femmes, en l'occurrence Jean Atwood et René Dante, réapparaissent dans le roman et montrent qu'il y avait une continuité entre les autres romans et celui-ci. Donc c'est pour ça que c'est situé en 2039 et pas en 2250.
Anna est entourée de femmes, vous venez d'en citer quelques-unes, de figures féministes. Est-ce un roman féministe, un livre engagé ? Est-ce que vous êtes un écrivain militant ?
Oui, je suis un écrivain militant. Oui, c'est un roman engagé. Est-ce que c'est un roman féministe ? Ça, je pense que c'est plutôt aux lectrices de le dire. Parce que moi, personnellement, je ne crois pas que je peux me définir a priori ou m'afficher comme féministe. Être féministe, c'est pas une qualité ou un label, c'est plus ça se définit par des actes. Donc je dirais que c'est aux lectrices de dire si c'est un roman féministe. Mais engagé, oui, certainement. Politique, certainement. Oui, bien sûr.
C'est un roman qui dit le pouvoir des histoires.
Alors, l'une des choses récurrentes dans ce que j'écris, c'est qu'effectivement, je m'en suis rendu compte petit à petit au fil des années, au fil des romans, que je crois vraiment à la... à la valeur et à la puissance des histoires comme outil de partage, comme outil pédagogique, comme outil de réflexion, comme outil d'engagement. Et donc effectivement, là aussi, c'est un roman dans lequel l'histoire est un... le récit personnel et le récit collectif sont des manifestes politiques aussi, enfin des manifestes engagés. Et c'est une autre façon de le figurer dans un roman dans lequel les histoires ont une place tout à fait particulière qui n'est pas exactement celle qu'elles avaient dans les romans précédents.
Comme il est question d'une espèce de litanie, mais litanie c'est peut-être un mot un peu trop religieux peut-être.
Oui, mélopée.
Mélopée. Et vous écrivez « Je suis les millions d'écrivantes qui n'auront jamais les honneurs d'une publication ».
Oui, je voulais comme c'est un roman qui parle beaucoup de la santé des femmes par le prisme de la santé mentale et aussi de la situation et de la vie des femmes, je voulais qu'il y ait quelque chose qui rappelle toujours la lectrice et le lecteur à la réalité d'aujourd'hui, même si ça se passe en 2039, c'est d'aujourd'hui que je parle. Et donc ce poème qui est c'est un long poème mais qui scande, enfin dont les strophes scandent l'histoire elle-même, enfin le récit des diverses explorations que font les personnages. Ce long poème qui s'appelle Je suis celle au pluriel. Et donc je l'ai écrit pour toujours rappeler la situation et la vie des femmes aujourd'hui, mais c'est une sorte de poème qui raconte l'histoire des femmes depuis des millénaires jusqu'à maintenant, mais aussi dans le futur. Et chaque vers de chaque strophe est dit par une, enfin, j'imagine, est dit par une femme différente. Donc c'est une manière toujours de ramener à la réalité qui est une réalité qui est autour de nous, mais qu'on voit pas toujours.
Une question un petit peu qui a l'air anodine, mais est-ce que c'est un livre optimiste ?
C'est un livre qui... c'est un livre qui, oui, qui est optimiste, même si cet optimisme est mesuré. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de chapitres et un certain nombre de commentaires qui disent oui, je sais dans quel monde nous vivons et que les perspectives pour les 20, 30, 40, 50 ans à venir sont pas formidables. Néanmoins, je pense que il y a toujours quelque chose à faire, hein. Il faut pas baisser les bras. On peut toujours faire quelque chose et surtout, on peut toujours espérer faire quelque chose pour les gens qui nous entourent directement. C'est-à-dire que même si la pollution, le climat, tout ça s'aggrave, ça veut pas dire qu'on peut pas s'occuper des gens qui nous entourent. Et moi, je crois beaucoup à la responsabilité individuelle, mais aussi au travail collectif qui peut donner des choses tout à fait positives, dans l'environnement immédiat, même si on peut pas jouer sur des choses qui nous échappent pour des raisons extrêmement compliquées de politique, de commerce, d'industrie, etc. On peut quand même faire du bien autour de soi. Donc c'est un plaidoyer pour pas baisser les bras et pour regarder directement autour de nous ce qu'on peut faire.
Dernière question pour clore cet entretien. Et bien que vos lecteurs, lectrices peuvent puiser dans votre roman pour y répondre, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec eux, elles, vos lecteurs et lectrices?
Alors il y a deux... Quand j'ai entrepris ou quand je me suis rendu compte que j'écrivais un livre de science-fiction, une sorte d'anticipation, j'ai beaucoup pensé à deux romans d'une autrice américaine qui s'appelle Ursula Le Guin. Et ces deux romans qu'on trouve en livre de poche, c'est La main gauche de la nuit et Les dépossédés, qui sont deux romans de toute beauté, qui sont des utopies à la fois positives, mais avec un optimisme mesuré, c'est-à-dire qui ne font pas l'économie de regarder ce qu'est la réalité. Et ce sont vraiment de très très beaux livres que j'ai lus quand j'avais peut-être 25 ans, qui m'ont accompagné depuis très longtemps. Je les ai relus depuis, mais j'encourage vivement les lectrices et les lecteurs qui connaîtraient pas Ursula Le Guin à les lire, parce que ce sont vraiment de très beaux livres.
Merci beaucoup, Martin Valclair.
Je vous en prie.